connais très bien le château Lynchbage et la famille Cazès. Tu as également traduit deux ouvrages pour eux, Lynchbage et compagnie, et le livre de Jean-Michel Cazès, Bordeaux Grand Cru, The Reconquest. Si tu devais décrire leur philosophie, quelle serait-elle selon toi?
Je pense qu'il existe une proximité entre l'appellation de Pauillac et leur propre vignoble. Elle s'est construite au fil de nombreuses décennies de présence réelle sur place, du fait d'y vivre et dès le début de leur possession de Lynchbages, ce qui est assez inhabituel. Il existe d'autres propriétés du classement de 1855, dont les familles vivent sur place et participent à la vie locale, mais elles sont minoritaires. Parce que André Cazès a été maire de Pauillac pendant 40 ans, et aussi parce qu'ils avaient dû créer une activité d'assurance, ils connaissaient les gens de la région d'une manière différente. Ils ont entretenu une relation de long terme avec les habitants du secteur. Je pense que cela leur donne une proximité et un amour pour Pauillac que l'on ressent dans les vins. C'est très important. Et j'apprécie vraiment le fait que même aujourd'hui, alors que le vin vaut beaucoup plus cher, il y a le sentiment qu'il s'agit d'un domaine familial et qu'ils se soucient de ce qu'ils produisent.
La famille Cazès se caractérise par une approche rationaliste de son métier. Trouves-tu, comme moi, que c'est l'une de ses forces?
Oui, je suis d'accord. Et cela revient au fait que les propriétés ne sont pas seulement un investissement, mais un lieu où ils vivent et un lieu où ils sont très enracinés. Cela les aide non seulement à gérer, mais aussi à prendre soin. Ils se soucient des personnes qui achètent le vin. Il existe un lien entre la famille et les personnes pour lesquelles ils élaborent le vin. C'est quelque chose de très ancré. Si vous pensez à des propriétés comme celle-là, Léoville-Barton a également ce sentiment. C'est une impression qui vous fait avoir confiance envers les gens qui font le vin. Dans des périodes difficiles comme aujourd'hui, cela fait une grande différence.
Jean-Michel Cazès a été le moteur de cette approche à Bordeaux.
Oui, et Jean-Michel a été l'un des premiers à ouvrir les portes de ses propriétés pour accueillir les gens. Et l'une des raisons pour lesquelles ils ont créé Corday-en-Bage, c'est qu'il recevait si souvent du monde pour le déjeuner qu'à la fin, sa femme lui a dit « Est-ce que tu pourrais ouvrir une petite maison d'hôte, quelque part pour loger tout ce monde ?» Ce qui est intéressant chez Jean-Michel, c'est qu'il ne s'est pas reposé uniquement sur la place de Bordeaux pour promouvoir ses vins. Il prenait l'avion, allait rencontrer les gens, leur serrait la main et faisait le travail. Ce que beaucoup d'autres régions faisaient naturellement, mais que Bordeaux n'avait pas vraiment fait. Bordeaux a bien connu quelques figures dans son histoire qui l'ont fait, comme Arnaud de Pontac, ancien propriétaire de Haut-Brion, qui a envoyé son fils à Londres en 1660. Il y a donc eu quelques figures historiques, mais pas beaucoup. Je placerai vraiment Jean-Michel Cazès dans cette même lignée qu'Arnaud de Pontac. Comme d'autres figures, telles qu'Hélène de Langsing et le baron Philippe de Rothschild au XXe siècle, qui avaient la vision selon laquelle le marché des grands vins est un marché émotionnel. Pourquoi les gens dépensent-ils beaucoup d'argent pour du vin? Parce qu'ils éprouvent un sentiment, une émotion à son égard. On ne ressent pas d'émotion avec un simple appel téléphonique. On ressent de l'émotion en étant assis à côté de quelqu'un, en partageant une bouteille autour d'une table. Et c'est cela qui fait la différence. C'est l'histoire, l'émotion, et bien sûr la qualité dans la bouteille. Mais cela va bien au-delà. Aujourd'hui, en période de difficultés économiques, les gens réalisent qu'ils ne peuvent pas compter sur quelqu'un d'autre pour faire le travail. Ils doivent le faire eux-mêmes. Les châteaux qui s'en sortent le mieux dans le ralentissement actuel sont ceux qui donnent aux gens une raison de continuer à acheter leur vin. Les Catiards en sont aussi un bon exemple. Ils ont un visage. On tombe amoureux de leur histoire d'amour à Smith Hall Lafitte.
Le rôle du négociant reste important.
Oui, même extrêmement important, comme il l'a toujours été. Il n'y a probablement personne de meilleur dans tout l'univers commercial pour la logistique et pour la connaissance de toutes les différentes strates du marché. Ils ont la capacité d'être extrêmement réactifs. Ce marché ne va pas très bien, mais nous savons, parce que nous y avons été, que tel autre marché va mieux. Cette capacité à être connecté par des réseaux reste extrêmement importante. Les châteaux, durant les 15 dernières années où les marchés ont été si dynamiques, notamment en Chine, ont peut-être oublié à quel point ce système de capillarité est important. Mais cela doit être un partenariat avec leur premier client, qui est le négociant. C'est assurément une danse délicate, mais ce partenariat est la force de la place.
Selon toi, Lynch Beige est-il la plus grande marque de Bordeaux?
Bordeaux est une grande région avec des sommets d'excellence dans chaque appellation. C'est la véritable force de Bordeaux. Et il ne fait aucun doute que Lynch Beige compte parmi ces grandes marques, au même rang que les premiers crus.
Penses-tu que Lynch Beige est gagné en précision depuis que le vin est vinifié dans la nouvelle cuverie du 21e siècle?
Pas uniquement grâce à la nouvelle cuverie. Je dirais que dès 2009-2010, on pouvait déjà sentir qu'il y avait beaucoup plus de précision dans les vins. Ils ont commencé à faire beaucoup plus dans les vignes, avec des méthodes de tri plus technologiques, ainsi qu'un usage accru du GPS pour déterminer où ils devaient intervenir sur la vigne. On pouvait déjà remarquer une différence. Ils ont renforcé la sélection et augmenté la proportion du second vin. On pouvait voir, comme avec le 2014 que nous avons dégusté, que l'une des raisons pour lesquelles il est si bon à mes yeux tient aux nouveaux procédés sur lesquels il se concentrait. Quand on arrive à 2020, le premier millésime vinifié dans la nouvelle cuverie, il y a encore un saut qualitatif supplémentaire.
Comment ce saut qualitatif se traduit-il dans les vins?
Je dirais qu'aujourd'hui, parfois, le vin paraît plus musclé dans sa jeunesse. Ce que Jean-Charles disait à propos de son grand-père est vraiment intéressant, qu'il attendait toujours une semaine après la tour pour commencer les vendanges. Le vin avait autrefois une forme de générosité. Aujourd'hui, dans les millésimes plus récents, le vin a aussi un véritable style pauillac. Il a des épaules, il a cette vraie gravité et des notes de réglisse. Il l'a toujours eu d'une certaine manière, mais il y a davantage de précision dans le vin aujourd'hui.
Jean-Charles a dit que Lynch Beige avait plus de buvabilité dans sa jeunesse.
Pour moi, pas nécessairement pour Lynch Beige lui-même. Je pense que Lynch Beige vieillira toujours exactement comme il l'a toujours fait. Et je pense que c'est un vin sérieux dans de nombreux millésimes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de précision dans Echo, de Lynch Beige et les Ormes de Pèze qu'auparavant, ainsi que désormais dans Verso, de Haut Bataillé et Haut Bataillé. Je pense qu'il est très clair que l'on peut boire Verso, et probablement Haut Bataillé, plutôt que Lynch Beige. Ormes de Pèze est un si beau vin dans cette gamme, parce qu'on peut le boire immédiatement tout en pouvant aussi le faire vieillir. Mon impression est qu'il est plus clair aujourd'hui qu'autrefois de voir quel vin de la gamme convient à chaque situation.
Il était aussi très intéressant que Jean-Charles dise, pendant la dégustation, qu'ils veulent conserver Haut Bataillé en tant que cinquième cru classé et qu'ils ne veulent modifier aucune surface qu'ils pourraient ajouter à Lynch Beige.
Oui, en effet. Cela doit être très tentant de faire cela. Toutes ces terres nouvellement plantées, ils pourraient les intégrer directement à Lynch Beige. Je suis en réalité très impressionnée qu'ils aient pris la décision de ne pas le faire. Mais cela montre à nouveau à quel point leur approche est réfléchie, en pensant vraiment à ce qui fonctionnera avec les marchés, ainsi qu'à ce qui correspond à la personnalité de ces différents vins.
Quelle est ton impression générale des vins des domaines Famille Cazes? Penses-tu qu'il existe un style Cazes?
Oui, je le pense. Il y a cette combinaison de générosité et d'accueil avec de la précision, et une conscience très forte du caractère de l'appellation, que j'adore. J'apprécie quand un vin goûte son lieu d'origine. Lynch Beige, en particulier, comme le 2014, est très pauillac. Haut Bataillé est moins un pauillac classique que Lynch Beige, mais je l'apprécie aussi énormément. Comme l'a dit Jean-Charles, il est plus dans un style Saint-Julien que pauillac, parce qu'il est un peu plus léger et plus accessible. C'est cela, la véritable signature de la famille Cazes. Ils sont heureux et fiers de représenter la signature de leurs appellations.
C'est aussi le cas pour les Ormes de Pèze.
Oui, d'une manière old school très belle. C'est une idée contemporaine charmante de ce que peut être le old school, parce que c'est aussi séduisant. Ce vin fait partie des 5 meilleurs rapports qualité-prix de Bordeaux. Il est incroyablement constant, délicieux, et proposé à un excellent prix pour ce qu'il offre. Les vins de la famille Cazes ont toujours une certaine facilité. Ils ont un sens du lieu. Il n'y a aucune raison que les gens ne puissent pas les comprendre.
Le premier vin que nous avons dégusté était Verso de Haut Bataillé 2020. il est intéressant que Jean-Charles ait dit que, pour ce millésime, les jeunes vignes n'étaient pas encore en production. C'est la deuxième sélection issue du vignoble historique de Haut-Bataillé. Que penses-tu de ce vin ?
Verso est le vin où, à ce stade, on sent qu'il est le moins homogène de toute la gamme. C'est l'un des vins de la gamme dans lequel on perçoit que tout le processus est encore en cours.
Il reste encore du chemin à parcourir.
Exactement. Pour Haut-Bataillé lui-même, je perçois déjà une signature là où il en est, et cette idée d'un style légèrement sculpté, plus léger, et cela se goûte. On ne peut pas le manquer dans le verre. Il est évidemment différent de Lynch Beiges. Pour Verso, je ne sais pas encore exactement ce que j'ai dans le verre, contrairement aux autres.
Nous avons dégusté Haut-Bataillé 2018, un millésime chaud et ensoleillé.
Je l'ai apprécié, mais Haut-Bataillé est meilleur aujourd'hui. Je vois vraiment les différences, et 2018 n'était que la deuxième année de propriété de la famille à Haut-Bataillé. Aujourd'hui, je vois vraiment l'évolution de ce que la famille fait à Haut-Bataillé.
De quelle manière percevois-tu cette évolution ?
Le 2018 n'était pas vraiment un vin de Pauillac. Ce Haut-Bataillé était davantage dans un style 2018, alors qu'aujourd'hui, je pense que le vin est une version plus sculptée de Pauillac. Je ressens cela depuis le millésime 2020. Cela n'a pas pris longtemps. J'ai vraiment aujourd'hui une idée claire de sa personnalité.
Haut-Bataillé aura certainement un bel avenir. Et le vin suivant, les Ormes de Pèze 2020.
J'ai énormément d'admiration pour ce qu'ils font aux Ormes de Pèze. C'est un vin que j'aime. J'en achète pour moi-même et j'aime le partager avec des amis. C'est un vin que j'attends toujours avec impatience de déguster. Et c'est un bon signe, car je le goûte régulièrement et je suis toujours heureuse de le voir dans une série.
À propos de Lynch Beiges 2014, tu as écrit que c'était le vin de l'année, mais tu as aussi dit pendant la dégustation que ce n'était pas toujours le plus grand vin.
Cela signifie que c'est le vin qui m'a le plus surprise. C'est un vin sur lequel je veux attirer l'attention de mes abonnés, pour leur dire « Ne passez pas à côté de ce vin. C'est un vin à rechercher et à acheter. Je n'aime pas publier uniquement les vins à 100 points des millésimes les plus récents. Je préfère de loin montrer aux gens « Voici un vin vraiment brillant que vous pourriez oublier ou que vous n'avez peut-être jamais vu à l'époque. » Voilà ce que je pense de ce 2014. Je l'ai dégusté lors d'une verticale à l'aveugle avec les équipes de Lynch Beige. Nous avons tous pensé, y compris le vinificateur de Lynch Beige et Jean-Charles, qu'il s'agissait d'un 2016. C'est pour cela qu'il est si bon.
C'est l'une des grandes forces de Lynch Beige. On n'est jamais déçu par le vin.
Oui, exactement. Nous avons la chance d'avoir à Bordeaux des propriétés comme Lynch Beige, qui entretiennent la foi. Les gens peuvent parfois avoir le sentiment d'être désenchantés par Bordeaux. Cela peut arriver. Mais certains vins, comme Lynch Beige, aident les gens à rester attachés à Bordeaux. Ce 2014 est tellement Pauillac. Et en même temps, c'est un Lynch Beige classique.
Le vin suivant était Lynch Beige 2019. Jean-Charles a dit quelque chose de merveilleux à propos de ce millésime. D'abord, il a dit que l'Union des Grands Crus avait fait un travail formidable en envoyant tous les échantillons de barriques aux journalistes et aux acheteurs du monde entier, ce qui était extrêmement difficile pendant le confinement dû au Covid. Et ensuite, que Malou, le sommeur, ancienne directrice générale, et lui avait été presque émotionnellement touchée par la réponse si positive du marché.
J'étais à cette époque la seule critique de vin, travaillant pour Decanter, basé à Bordeaux à plein temps et capable de goûter tous les vins. Chez Decanter, nous avons eu beaucoup de chance parce que nous avons publié une sélection plus large de notes en primeur. Les autres critiques n'avaient que les plus grands vins. J'ai un souvenir très net d'être assise dans ma cuisine, en train de tout goûter, recevant les livraisons dans le garage. C'est un grand millésime, avec beaucoup de valeur. Je pense que 2020 est légèrement plus homogène comme millésime, est légèrement plus concentré. Globalement, 2020 est meilleur que 2019. Mais je pense que 2019 est extrêmement bien équilibré et délicieux. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour être bu.
Le dernier vin, Blanc de Lynch Beige, 2024.
Lynch Beige. Blanc représente l'une des premières étapes quand Jean-Charles est revenu et a rejoint son père. Il y a imprimé sa propre vision de ce qu'il voulait faire. Il a mené tout le travail, comme le contrôle des températures pour chacun des fûts. Il a vraiment beaucoup travaillé à concevoir le style qu'il voulait pour ce vin et à en modifier le profil par rapport à ce qu'il était avant son arrivée. Je pense qu'il a fait un travail fabuleux. On le retrouve dans ce 2024, qui est vraiment délicieux.
De quelle manière Lynch Bages Blanc a-t-il changé depuis que Jean-Charles a mis en place ces changements?
Tout cela est une question de précision. Il a la juste dose de fraîcheur, sans perdre toute la tenue que doit avoir un vin blanc. Lui et l'équipe, avec Nicolas Labenne, ont fait de ce vin l'un des grands vins blancs de Bordeaux. Et ils ne sont pas si nombreux, seulement une poignée qui sortent vraiment du lot et qui sont réellement intéressants. Lynch Bages. Blanc évolue aux côtés de Ylengly d'Yquem, Pavillon Blanc, et bien sûr des deux blancs de Haut-Brion ainsi que du blanc de La Fleur. Il n'y en a pas tant que cela pour lesquels on puisse vraiment dire qu'il s'agit d'un Bordeaux blanc capable de rivaliser avec les grands vins de Bourgogne, de la Loire et d'autres grands blancs français. Lynch Beige Blanc est vraiment impressionnant.
C'était en mai 2022 que j'ai échangé avec toi à propos de ton site Inside Bordeaux. Maintenant, presque 4 ans plus tard, es-tu satisfaite de cette décision?
Oui. C'était en septembre 2021 que j'ai lancé Inside Bordeaux, et c'est certainement la meilleure chose que j'ai faite dans ma carrière. Je pensais que c'était le bon moment pour le faire et que j'avais la profondeur de connaissances nécessaire pour ce type de site. Et il n'existait pas de site comme celui-là. J'ai toujours été très attentive à ce qu'il ne soit pas seulement question de notes. Je ne le fais pas seule. Sarah Kemp m'a rejointe. J'adore faire les podcasts avec Wine Searcher, les Wine Voices. Des centaines de milliers de personnes reçoivent cette newsletter chaque semaine. Cela élargit ma portée et cela renforce encore davantage l'association de mon nom avec Bordeaux. C'est ce dont j'ai besoin, parce que c'est précisément de cela qu'il s'agit avec mon site. Si vous commencez à parler de Bordeaux, vers qui devez-vous vous tourner? Vous devez venir sur mon site. C'est tout son objectif. Il est bon d'aller en profondeur dans un seul domaine.
Quand on va aussi profondément dans un seul domaine, ce qui, selon moi, est à force, est-ce difficile de conserver son indépendance?
J'ai été journaliste pendant 10 ans avant de devenir journaliste spécialisé dans le vin. L'idée d'indépendance est profondément ancrée dans ma manière d'aborder les choses. Je pense que plus on goûte dans une région, plus on voit ce qui fonctionne ou non. Il serait impossible d'être universellement positif sur tout lorsqu'on va aussi loin dans la profondeur. A. Ce ne serait pas intéressant, et B, ce serait trop évident. Je pense qu'il est presque plus facile d'être véritablement indépendante quand on connaît très bien un lieu.
Quelle est la partie la plus difficile de ton travail?
J'essaie toujours de penser à ce qui est le plus utile pour mes abonnés, ce dont ils tirent réellement un bénéfice. Il est difficile de s'assurer en permanence que l'on délivre ce qui est le plus utile aux gens. Pour cela, il est formidable d'avoir les retours de mes abonnés. Et puis, les médias changent énormément. Le monde du vin change énormément. Ainsi, tous les sites qui ont une masse salariale doivent réfléchir à ce pourquoi les gens seront prêts à payer, parce qu'il y a tant de choses disponibles via l'IA. Vous demandez à ChatGPT et il vous dira énormément de choses. Heureusement, je bénéficie de mon passé de journaliste. Je n'ai jamais pensé « Je vais juste donner 3 points que les gens peuvent résumer en 1 seconde », ce qui représente beaucoup de contenu à clic. Obtenir une réponse simple, rapidement, cela n'a plus vraiment de sens aujourd'hui, car cela vous donne de l'anecdotique sans profondeur. Il faut se demander « Pourquoi puis-je être différente et aller en profondeur en apportant un vrai contexte ?» Il s'agit de trouver les sujets, c'est le travail journalistique de base à l'ancienne, qui était aussi celui de Jean-Michel Cazès quand il partait dans les années 70. Faire le travail de base, y consacrer du temps, ne pas choisir la facilité. C'est ce que je fais, espérons-le naturellement, mais cela demande du temps. Et nous sommes maintenant en train de préparer la 5e édition de la Mentors Week. Nous avons remporté l'an dernier le prix de la meilleure initiative en matière d'éducation et de partage des connaissances décernées par Vinexposium. C'est un vrai coup d'accélérateur, et cela m'apporte énormément. J'adore tout simplement passer une semaine avec ces brillants jeunes venus du monde entier.
Cela doit aussi être inspirant.
Oui, absolument. C'est incroyable. Et il y a aussi la Connoisseur Week. L'idée, j'ai instinctivement senti que la manière d'aborder le marché passait par les expériences. C'est ce dont Bordeaux a besoin. Il faut que les gens se sentent plus proches, qu'il y ait un lien émotionnel. La Connoisseur Week est très utile pour cela. Je l'organise avec Sarah Kemp, et c'est très agréable. Chaque maillon de la chaîne laisse au maillon suivant le soin de faire le travail avec le consommateur final. Aujourd'hui, la différence, c'est que tout le monde à la place en prend conscience. Il faut que quelqu'un tombe amoureux de ses vins. C'est ce qui doit se produire à la fin, et le fait d'avoir des visages, comme la famille Cazès, fait toute la différence.